jeudi à 20h, c'est Gay et Lesbien sur Radio G.
Tout le monde est barbu ce soir, même certaines filles dans le public d'ailleurs.
Voilà, c'est ça, je parle cuisine aujourd'hui.
Peu importe la taille, ce qui compte apparemment, c'est de bien savoir les titiller.
Tonix Live, une émission gay et lesbienne de l'association Tonix, un jeudi sur deux, de 20h à 21h, sur Radio G.
Radio G, 101.5 FM.
S'il y a bien une émission d'utilité publique qui a accompagné toute une génération de la région angevine, c'est bien celle qui va suivre. 20 ans qu'elle vous parle d'homosexualité. 20 ans qu'elle prouve qu'être gay, c'est aussi gay. Voici Tonix Live.
Libéré!
Bonsoir et bienvenue dans Tonix Live, l'émission gay et lesbienne de l'association Tonix. Une émission qui fête ses 20 ans. 20 ans qu'on vous donne la parole, qu'on parle de vous, de nous, du coming out à l'homophobie en passant par les discriminations. Ce soir, on va remonter le temps pour constater qu'en 12 ans, les choses n'ont pas beaucoup changé. Nous commençons l'émission en novembre 2009. Nous recevions des étudiants de la faculté d'Angers. Ils nous parlaient de leur expérience et de leur ressenti vis-à-vis de leur sexualité et leur place dans la société. Alors, l'homosexualité en milieu étudiant, comment ça se passait en 2009? Qu'en est-il du coming out? Et quid de la suite, l'homosexualité au travail? Eh bien, c'est ce qu'on écoute maintenant, dans Tonix Live.
Est-ce que vous qui êtes donc encore tous étudiants, vous dites que c'est vrai, c'est difficile de s'afficher, enfin que l'homophobie est encore très présente. Est-ce que vous avez été témoin, respectivement, dans vos universités, de d'actes homophobie? Enfin, témoin de violence ou même de haine verbale?
Non, pas à proprement parler dans l'université. Si ce n'est quand on met des affiches de soirées gays et lesbiennes, elles sont directement enlevées. Donc,
on n'arrive pas à faire le tri entre... parce qu'on en parlait tout à l'heure, Camille disait qu'au niveau des BDE, il faut avoir leur accord pour afficher. Donc on ne sait pas si c'est juste par souci de monopole ou si c'est parce que les affiches gays et lesbiennes ne leur plaisent pas. On ne sait pas aussi si c'est juste des actes à part de personnes qui ont voulu les enlever ou si c'est des gens qui les ont trouvés sympas et qui ont voulu les mettre chez eux aussi.
Ou alors, est-ce que les affiches d'habitude, elles sont enlevées pour d'autres événements, pour d'autres concerts? Parce qu'il y a peut-être ça aussi.
Je vais peut-être intervenir sur ce sujet-là puisque, en fait, sur la fac de droit... l'année dernière, on a eu un accord avec la direction comme quoi les affiches étaient beaucoup plus réservées. L'affichage était réservé aux BDE et que les affiches qui n'étaient pas en relation avec les BDE, ben, on les enlevait pour favoriser l'événementiel étudiant.
C'est quoi un BDE ?
Un BDE, c'est un bureau des étudiants.
Ah.
Donc, c'est une association étudiante.
Donc en fait, l'affichage n'est pas du tout libre.
Donc l'affichage n'est pas libre puisque normalement, théoriquement, à l'univers, à Saint-Serge justement, on évite l'affichage sur les vitres. C'est pas autorisé, c'est une tolérance. Donc l'université tolère ce genre d'affichage, mais je pense que en allant voir les BDE, il y aura une facilité pour afficher. Hein.
Mais sinon, en fait, il n'y a pas vraiment de discrimination visible à l'université même. Mais après, on a forcément des échos de telle ou telle personne à l'extérieur. Par exemple, des amis qui se font virer de bar ou des choses comme ça.
D'accord, oui. Oui, mais à l'intérieur même du complexe, il n'y a pas...
Pas vraiment, pas visiblement, disons.
Pas visiblement,
mais
oui.
Les gens n'en pensent pas moins, à mon avis.
Ouais.
Je pense par contre qu'il doit y avoir une violence verbale puisque à la soirée des associations qui a eu lieu au moment du forum Agora, il y a mon jeune voisin de table qui disait que lui, étant en formation à la chambre de commerce, subissait en fait des petites brimades, des vannes de temps en temps et assez régulièrement, simplement après qu'il a annoncé qu'il était gay, quoi. Et je pense que ça, cette violence-là, elle existe certainement autant dans le monde étudiant qu'ailleurs, mais entre autres dans le monde étudiant, quoi.
Tu voulais
préciser ? Effectivement, oui, j'ai été témoin, ne serait-ce que cet après-midi, je me baladais dans le campus et je vois un groupe de jeunes discuter entre eux, et bon, ils se vannaient entre eux, et forcément, l'expression « t'es un sale petit PD », alors qu'ils ne sont pas, pour rigoler, ils utilisent ce genre d'expression, donc c'est un acte un peu homophobe, parce qu'on emprunte une expression
pour en faire une insulte
soi-disant gentillette, mais c'est pas du tout gentil, quoi, c'est...
Alors, après, il faut savoir aussi que les gens ils disent ça pour parce que c'est un code dans la culture française quand on dit oh le petit PD en rigolant un peu, c'est pas forcément contre les PD, c'est plus pour charrier.
Oui, mais par contre, c'est vraiment homophobe parce que l'homophobie c'est quand on adresse un propos donc du genre tantous, tarlous, PD à quelqu'un qu'on salouine, à quelqu'un dont on suppose l'homosexualité ou qui est vraiment homosexuel. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité de la personne visée.
Oui, mais pour autant, moi par exemple, ça m'arrive très souvent, bon, au travail par exemple, je l'aurais pas forcément tous dit, et dans mon groupe de travail, c'est très souvent qu'ils font des blagues et on dit traitant oh l'enculé, oh là là, tu vas avoir moelleux derrière, ou des choses comme ça. Mais je les connais et je sais que c'est pour rigoler, c'est parce que c'est un milieu un petit peu. Oui, voilà, mais c'est pas forcément méchamment. Contre les homosexuels.
C'est la pire des homophobies quand c'est pas méchant. Parce qu'on utilise, ce que tu es comme insulte.
Oui, mais c'est pas pour autant que je les aimerais. Que moi, ça me fait pas mal, ça me passe au-dessus. Tandis que quelqu'un, par exemple, j'étais avec quelqu'un à une époque, et quand on se tenait la main dans un parc, par exemple, là où on se prenait des réflexions en disant oh les petits PD et tout, et alors là, par contre, ça me visait directement parce que c'était voulu et l'intention était de blesser. Tandis que là, leur intention n'est pas de blesser.
Alors qu'en plus, c'est plutôt un grand PD.
Camille ?
Moi, je pense que c'est pas du tout anodin, comme tu dis. Parce qu'en fait, par exemple, dans ce groupe d'amis, s'il y en a un jour ou une qui dit qu'elle est gay ou lesbienne, ce sera pas du tout bien accepté. Et les petites insultes anodines, comme sale PD, comme vous disiez, ce sera véridique pour.
Exact, ouais. Sinon, je suis un peu surprise, non, parce qu'on sait très bien que l'homophobie, elle est toujours présente depuis des générations, mais étant donné un petit peu ce qu'au niveau des médias, on voit et que ça devient quelque chose de plus normal pour beaucoup, ou en tout cas de plus banal, que voilà, tout le monde, tous les hétéros connaissent ou ont dans leurs amis, ou connaissent de loin ou de près des homos, et on pourrait croire qu'il y a du coup, plus de tolérance parce que plus de connaissances sur le sujet et que c'est plus quelque chose comme dans le temps qu'on devait cacher, qui était tabou et ça l'est moins. Par contre, l'homophobie, elle est toujours présente. On aurait tendance à croire qu'elle diminue avec ça.
Alors, moi, je pense qu'il y a une amélioration au niveau de la parole. Donc, quand on parle des amis ou même des gens qu'on connaît pas, oui, je suis lesbienne, oui, je suis homo, n'importe quoi. Il y a une plus grande tolérance. Mais après, il y a une différence avec le fait de se montrer en public. Et comme tu disais, Mika, ou n'importe quoi, quand on se tient la main, quand on s'embrasse en public, là, il n'y a plus du tout de tolérance. Parce que lorsque les gens le voient, ça leur fait une réaction et toutes les belles paroles qu'ils ont pu prononcer sont anéanties.
Exact. Et tant qu'on le sait, qu'on ne le voit pas, on le tolère, on le supporte. Mais quand ça devient concret, ça dérange.
Ça dérange, tout à fait.
Ça dérange, ouais.
C'est un peu la vieille expression anglaise, pas dans mon... Pas, not in my backyard, pas dans mon... quelque part, mais pas à côté de chez moi, quoi. Un truc comme ça, c'est ça.
C'est ça.
Oui, c'est la bonne blague, oui. On n'est pas raciste, mais pas de ça chez nous, quoi.
Donc alors là, c'est ce qui se passe donc, au sein d'une université, ce que vous pouvez vivre chaque jour. Donc finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'évolution, déjà, de ce côté-là. Par contre, oui, tu voulais.
Faudrait que ça remonte plus loin, en fait. Je pense que c'est déjà dès les collèges et lycées, ils sont pas du tout armés pour faire la prévention contre l'homophobie. Et je pense que quand il y a des bagarres ou déjà où quelqu'un se fait insulter sur ce sujet-là, il a déjà pas le réflexe d'aller le déclarer parce que c'est un peu peut-être une honte pour lui ou il le vit très mal. Et ensuite, même si cette dispute-là est rapportée au professeur ou à la direction, est-ce que eux sont vraiment armés pour répondre à ce problème et faire la prévention en conséquence? Je suis vraiment pas persuadée. Donc ça part de là, c'est un problème d'éducation tout simplement. Et ouais, c'est normal qu'il y ait toujours ça à l'université si ça fonctionne comme ça dans les collèges.
Non, ça ne fait pas et ça ne fera pas partie des cours avant un bon bout de temps, puisque que ce soit l'éducation sexuelle ou autre, on ne montre qu'une facette de ce qui existe. Ouais. Mais par contre, on sait, juste pour ce point-là, on sait que, par exemple, l'association Quasar, notre association voisine angevine, intervient dans des écoles et fait de la prévention, explique ce qu'est l'homosexualité. Après, c'est peut-être... Pas que c'est des cas isolés, mais après, il faut le faire en plus grande masse et avec les moyens qu'ils ont, je pense qu'ils en font déjà beaucoup, mais on ne peut pas intervenir comme ça dans tous les collèges pour le faire.
Ça peut vous paraître un peu plus loin comme truc, ce que je veux dire, mais ça fait un peu penser aussi aux femmes battues. On pensait toujours que les femmes battues c'était dans des milieux difficiles et on s'est aperçu qu'en fin de compte dans le 16e ou même dans le 16e dans les quartiers chics, quoi, il y avait des gens chics qui battaient leurs femmes aussi. Et l'homophobie c'est la même chose. Hein. Il y a des gens très très chics qui sont très très soi-disant très ouverts.
Ah, et pas puis, du tout, non.
Non, non, mais oui, mais oui, mais on pensera en toute confiance si tu vas avouer ton homosexualité à quelqu'un qui est un peu bobo, un truc comme ça, tu vas dire tiens, j'ai peut-être trouvé plus de tolérance. Ben, c'est pas vrai. Tu peux l'avouer à quelqu'un qui est très simple, qui est un ouvrier ou un truc comme ça, et ça marchera peut-être mieux. Je veux dire, ça a pas de rapport.
C'est pas une question de classe sociale, effectivement, ou de.
Oui, mais beaucoup de gens le pensent ça aussi.
Oui.
Que dans les milieux branchés, c'est plus toléré.
Branché n'est pas bobo.
désolé. Excusez-moi pour mon âge.
Et d'ailleurs, à ce propos, ça me paraissait très intéressant que le Cédric de SOS Homophobie veuille faire sa principale action auprès des collèges et lycées en allant intervenir. Et ça, je pense que c'est certainement ce qui fait le plus avancer la cause. C'est-à-dire, plus on s'y prend tôt pour dire, c'est normal que les gays, les lesbiennes, les bi, les trans existent. Et en plus, il peut y en avoir à côté de toi. C'est peut-être même toi. Et tu n'as pas ni à entendre l'agression des autres, ni à être l'acteur de cette agression vis-à-vis des autres.
Alors, moi, j'ai rencontré il y a quelque temps des jeunes filles qui devaient avoir à peu près 17 ans, et donc qui étaient hétérosexuelles, qui se donnaient la main, qui se faisaient des petits bisous, qui se la jouaient un peu lesbiennes.
C'est la mode. Est-ce que,
voilà, c'était ma question. C'était ma question. Est-ce qu'il y a vraiment un phénomène de mode qui existe encore à la fac, par exemple, jusqu'à quel âge? Est-ce que.
Le fait de dire qu'on est lesbienne dans un groupe de filles, ça m'est arrivé l'année dernière, ça a déclenché chez certaines filles une espèce de curiosité mal placée. Et c'est vrai qu'elles ont tendance à voir si elles peuvent me séduire, alors que ça n'a aucun rapport. Elles sont hétérosexuelles quand même, mais ça les empêche pas de vouloir tenter l'expérience. Et du coup, c'est curiosité un peu malsaine.
Et il n'y a pas que chez les filles, y a aussi chez les mecs. Hein.
Sûrement.
Ah oui, alors ça c'est intéressant, parce que chez les filles, ça paraît toujours assez banal, anodin, c'est de voir deux filles se faire un petit bisou, se donner la main, ça dérange pas grand monde et ça passe, mais deux garçons, ça remet en cause autre chose.
Ça existe aussi. Et on a souvent la réflexion, quand on le dit ouvertement qu'on est gay, où on a dit « Ah oui, mais moi ça me dérange pas parce que moi je suis bi. »
Non, là, ce qu'on a entendu dernièrement quand on était tous les deux, c'était « hétéro-curieux ». J'avais jamais entendu cette expression.
Oui,
hétéro-curieux.
Ah oui.
Je l'avais jamais entendu.
Oui. Pourquoi pas, faut pas mourir idiot.
Mais quand même, on va dire, l'université d'Angers est quand même une des universités, je parle pas en tant qu'instance, mais en tant avec tous les étudiants qui y sont, d'ouverture, parce que ils sont quand même à l'écoute, ils réagissent pas violemment par rapport à d'autres universités ou d'étudiants.
Petite question, juste parler d'université. Est-ce que vous sentez une différence entre l'université catholique et l'université pour les mécréants?
Alors moi, celle des mécréants, je la trouve plutôt neutre, en fait.
Non, je plaisante.
À titre d'info, là, nos cinq intervenants, ils sont uniquement dans le public, ils sont pas dans le...
Non, d'accord. Non. Enfin, moi, j'ai eu des contacts avec des gens de la Cato, et en lettres, notamment, il y a plusieurs profs qui interviennent qui sont homosexuels. Hein.
Et puis, non, moi, je suis pas du tout dans le public actuellement, je suis dans le privé. Donc, et ça m'empêche pas de dire ouvertement que je suis gay dans ma classe de 18 mecs. Et ça n'a jamais posé problème. Bon, on a toujours des petits délires, sur la question. Mais
ça se comprend.
Mais c'est pas gênant. Ça a gêné personne. Ça a choqué personne dans le. Ou si ça a choqué, ils l'ont bien caché.
Sinon, j'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile de, par exemple, pousser la porte du local, rentrer à Tonix et de pas savoir ce qu'on va découvrir derrière, d'être. Est-ce qu'on ressent quelque chose, est-ce qu'on y va comme si on poussait la porte d'une boulangerie, ou est-ce que c'est une démarche qui est un peu difficile parce que du coup, on va s'afficher auprès d'autres? Est-ce que c'est compliqué?
Alors moi, je dirais que c'est pas l'affichage qui est difficile, au contraire, c'est ça se passe très bien, mais c'est vrai que on entre un peu dans une communauté, donc tout le monde se connaît. Faut avoir la démarche de parler aux autres et de s'intégrer, mais à part cet aspect-là, c'est très facile.
C'est vrai partout, dans toutes les communautés.
C'est vrai.
Il n'y a pas de difficulté, je veux dire, par rapport au fait d'être
lesbiennes,
pas
du tout.
C'était ça ma question, ouais.
Ah non,
pas c'est fait pour. Hein.
C'est fait pour, mais bon, moi je sais que là je converse par email avec une personne qui a 22 ans, qui je suppose est étudiante, je ne sais pas, mais qui passe devant le local régulièrement et qu'ose pas rentrer, et qui apparemment pour elle c'est très difficile de s'afficher en tant que lesbienne, je pense, et même dans le milieu gay, puisqu'elle ose pas rentrer à l'association. Et j'ai demandé de ses nouvelles très récemment, et elle dit c'est trop compliqué pour moi, c'est un manque de confiance ou je ne sais quoi, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais elle en souffre, elle le dit, qu'elle en souffre, mais qu'elle n'y arrive pas.
Oui, il y a un Rubicon à franchir, c'est comme pour le coming out, c'est comme pour. C'est un peu pour tout, quoi.
Auquel cas, ça ne vient pas forcément de l'assaut, ça vient peut-être de son chemin personnel.
Bah,
si elle nous écoute, qu'elle essaie.
Oui, on l'encourage.
Une fois le pas de franchi, de franchir la porte, les gens viennent nous parler. Moi, j'ai été très très bien accueillie, je suis arrivée au mois de septembre, ça s'est très très bien passé, et depuis. Je suis très très vite mis les deux pieds dans l'association sans problème, quoi. C'était
surtout que les préférences sexuelles ne sont pas vraiment on en parle si on veut en fait à Tonix, et on vient surtout pour discuter avec des gens, pour rigoler, pour passer du bon temps. On n'y vient pas forcément pour raconter sa vie et pour se sentir mal par certains aspects.
Puis en plus, on n'est pas obligé d'être gay, lesbienne, bi ou trans pour adhérer à Tonix.
Mais tous à la fois.
c'est ça. On peut déjà d'une, mais on peut être tous ça à la fois. Et puis après, on peut être hétéro et puis avoir envie de défendre la vie culturelle et la vie conviviale et les droits des LGBT, en fait.
La raison d'être de Tonix, c'est aussi qu'il y a une association festive.
D'ailleurs, si vous voulez venir, soyez russe ou cubaine, je veux dire, on n'y vient pas forcément parce qu'on est homo.
Non, c'est vrai.
On parlait tout à l'heure du coming out et du coup c'est une question que je voulais vous poser aujourd'hui. Ah. Ça se passe comment aujourd'hui, de nos jours, quand on annonce donc son homosexualité à ses proches ou à sa famille, enfin à ses parents, comment ça s'est passé pour vous?
Bah pour moi, au début, ça s'est passé assez mal, on va dire. J'étais dans la cuisine avec ma mère et je lui ai dit que voilà, elle avait peut-être
senti. T'as rangé tous les couteaux?
Oui, voilà, oui, j'avais rangé tous les coups. Non, mais bon, disons que j'ai fait plein de sous-entendus à ma mère jusqu'à ce qu'elle me dise, je vois des choses, j'en entends, mais tant qu'on me les dit pas en face, je veux pas le savoir. Donc là, je lui ai dit, maman, j'aime les garçons, et puis voilà. Donc après, elle m'a dit, je sais pas comment tu vas annoncer ça à ton père.
Merci, maman.
Voilà, donc, et quand je l'ai annoncé à mon père, lui était sur le canapé, moi j'étais debout, et je lui ai dit, et là, par contre, très mauvaise réaction, il m'a dit qu'il fallait que j'aille me faire soigner. Voilà. Ça n'a pas duré très très longtemps parce que, à vrai dire, ça fait 3 ans quasiment. Enfin, c'est quasiment l'anniversaire. C'était au mois de novembre. Et puis, donc j'étais à l'époque, j'étais en couple. J'allais m'aménager avec la personne quelques semaines après, et il a rencontré la personne tout de suite après Noël. Donc ça a été quand même très rapide, quoi. Il avait fallu un mois et demi pour qu'il encaisse. Et après, c'est passé très très bien puisque j'allais régulièrement avec mon ami, avec mon nouveau copain, on y va assez régulièrement aussi, ça se passe très très bien.
Oui, et puis ils gardent les gosses quand vous sortez.
oui, ils ont gardé les poissons rouges pour les vacances.
Nico, on t'a pas beaucoup entendu, est-ce que tu as envie parler de ton coming out?
Alors moi, question coming out, c'est simple, mes parents sont pas au courant.
Voilà.
Comme ça, j'ai mis au courant quelques amis, ça s'est toujours très bien passé avec eux. Les parents, je pense qu'ils s'en doutent, mais parfois ils lancent des petits pics, ben, pour me dire non, on ramène une fille à la maison, on ramène des filles, mais non, pas un garçon. Quand à la télé il y a un film qui parle d'homosexualité, tout de suite ils me regardent, ramène-nous des filles.
Oui, donc ils savent.
Mais voilà, enfin, je crois qu'ils s'en doutent.
Ils vont avoir un choc quand même, quoi.
Un petit peu. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent pas, enfin, ils écouteront pas l'émission de radio, ils sont pas trop dans
c'est
le
sûr.
Coin et ils connaissent pas Radio G, donc comme ça.
Je ramène Michette, ça va faire un choc, c'est clair.
Je vais leur envoyer le podcast par la poste.
Voilà, ils vont être contents. Par contre, il n'y a pas qu'eux qui s'en doutent, je pense qu'une grosse partie de ma famille s'en doute. Et quelque chose qui m'a fait un petit peu mal, c'était plutôt ma grand-mère qui m'a lancé d'un grand désespoir. J'ai eu l'impression, elle m'a dit si t'es avec un garçon, tu n'es plus mon petit-fils, elle m'a dit. Mais elle me l'a dit, j'ai senti que c'était faux. Que c'était comme un dernier recours pour me retenir, mais enfin, je l'ai quand même.
Tu es encore son petit-fils.
Je l'ai quand même retenu.
Je crois.
Oui.
Et oui, mamie, il est du côté obscur de la force.
Voilà, pour dire que c'est pareil. Ils s'en doutent, mais ils veulent pas voir. Et puis moi, je suis peut-être pas encore prêt à leur dire du coup.
Le jour où ça se dit, en tout cas, c'est un sacré soulagement. Après, on regrette. Je sais que c'est très très dur à le faire, mais quand c'est fait, c'est bon.
Non, mais on a beau en entendre beaucoup plus parler, ça devient quelque chose de plus banal. En fait, c'est toujours quelque chose qui est aussi compliqué parce que derrière, on a la peur de blesser, de faire du mal, de plus être aimé, à ceux qu'on aime. Voilà, c'est simplement ça. Et pour vous, alors, c'est pareil ou...
Alors moi, je le fais très très bien, mais j'en parle... De manière générale, je parle pas beaucoup de ma vie privée, donc j'en parle pas beaucoup. Et
si on pose la question, si le sujet vient, est-ce que t'as un petit copain ou quoi que ce soit, là je le dis sans aucun problème. Mais c'est vrai que je n'en parle absolument pas, que ce soit à l'école ou dans la vie de tous les jours, j'en parle pas. Après, sur les quelques amis, bien sûr, mes amis proches sont tous au courant et on a des surprises. On sait pas ceux auxquels on pensait qu'ils prendraient le mieux, qu'ils prennent le mieux et vice versa. Il y en a où on a très très peur et qui en fait voit ça très très bien. Donc il y a des bonnes surprises et des mauvaises.
Tes parents, ils ne savent pas.
Non, pas du tout.
Moi ça s'est plutôt bien passé, quasiment tout le monde est au courant. Après, entre l'acceptation, on parle de ce qu'on veut, on amène qui on veut, il n'y a pas de souci. À savoir ce qu'ils pensent vraiment au fond d'eux, on ne le saura jamais. Mais extérieurement, ça se passe très bien. Tant au niveau de la famille que des amis.
Bah moi ça s'est même plutôt bien passé et puis ma mère, on fait une petite anecdote avec ma mère, en fait quand je lui ai annoncé j'étais dans la voiture, je revenais d'une soirée et puis elle m'a demandé en fait, mais alors tu nous auras pas ramené une petite copine, et elle me regarde, elle me dit, un petit copain, et je fais ce sera plutôt petit copain maman, et puis là elle s'est mise à crier de joie en disant oui j'ai gagné, en fait elle avait parié avec ma soeur que j'étais homosexuel. Bon là je me suis trouvé un petit peu bête. Et puis mon père quand je lui ai annoncé, en fait on était en train de s'engueuler, et le jour où je lui ai annoncé, je lui ai fait de toute façon je suis gay, je pensais que moi j'avais une envie, c'est qu'il me vire de la baraque, mais en fait quand il me fait c'est bien, c'est ton cul, bon
Ouais, chaud. Hein.
Ouais, et puis les amis, moi je le dis ouvertement, quand la famille le prend très très bien, on est beaucoup plus ouvert et à même de l'expliquer, parce que moi comme ma mère.
Quelqu'un derrière toi. T'as des gens derrière toi.
Comme ma mère, elle dit ouvertement à tout le monde, enfin aux gens qu'elle connaît, si on lui dit il a pas de copine, tout ça, non, il est homo, il préfère les garçons, il a un copain. Après, on est plus à même d'en parler.
À la limite, les amis qui le prennent mal, c'est pas fout, vraiment des amis, en fait. Ouais,
Et on est souvent, je reviens sur ce qu'a dit Marie-Lou, c'est que on est souvent très étonné de qui reste et qui part.
C'est vrai.
Je suis pas forcément d'accord avec toi, parce que moi je l'ai dit à une amie qui l'a pris très 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 mal. Enfin, elle m'a dit que j'allais muter, pousser des petits cris, et etc., dandiner des fesses.
Mais c'est déjà vrai. Hein.
En plus, c'est vrai.
Sur le coup, bien sûr, c'était une grande déception, mais on continue à se voir et c'est toujours une très très grande amie, parce que bien sûr, tu peux avoir l'effet choc au départ, parce que la personne s'y attend pas. Et la personne ne sait pas forcément comment réagir. Pareil, j'ai une de mes sœurs, elle m'a dit écoute, je l'ai entendu, mais s'il te plaît, tu ne m'en parles pas, parce qu'il faut le temps que je l'intègre. Et maintenant, ça se passe très très bien. Il y a des gens, ce n'est pas forcément parce qu'ils vont mal réagir vraiment au prime abord qu'ils vont te rejeter, même au contraire. Là, avec mon amie dont je te parlais, elle est revenue et maintenant on a vraiment des liens très
proches.
Est-ce
que vous parlez d'homosexualité ?
On en parle et elle comprend et maintenant elle est très ouverte là-dessus. C'est juste en fait, elle en connaissait pas, elle s'était jamais posé la question, elle avait des préjugés très négatifs parce que de par sa vie, de par sa culture, etc.
Oui, tout à fait. Je comprends ce que je veux dire, mais c'est plus dans le terme du temps d'acceptation, le temps d'acceptation qui importe peu. Il y a des gens qui ont pensé peut-être que ce serait plus vite et c'est plus lent, truc comme ça, voilà. Mais il y a des gens qui vont là jamais l'accepter. Et là où il y a un trouble, c'est certainement des fois que les gens qu'on pensait aimer le plus. Enfin, ça peut être ce genre de voilà.
Il n'y a pas de règle en fait. Voilà.
Il me vient une autre question par rapport au code vestimentaire. On sait, alors pour les garçons, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je parle de ce que je connais pour les filles. Il y a une certaine époque où il y avait peut-être, je pense, beaucoup plus de filles très masculines.
Non, mais les butch, c'est fini. Pareil, hein.
Oui, voilà. C'est ça. Aux soirées filles, par contre, je pense qu'il y a quelque temps, il y avait beaucoup plus de filles masculines, mais peut-être parce que il fallait appartenir à un groupe comme toutes ces minorités où on se démarque, comme les punks qui vont avoir un code vestimentaire. Chaque minorité en fait a un code vestimentaire. Les lesbiennes, en tout cas, du coup, adoptaient peut-être ce code aussi pour appartenir à un clan ou à une communauté ou à quelque chose. Oui.
Alors là, j'ai le contre-exemple parfait, c'est la série The L Word, où ça vise justement à mettre bas tous les tabous sur les filles masculines. Non, pas un petit peu. Pourquoi
c'est trop à l'inverse, parce que du coup, c'est pas.
Un peu le rêve, c'est...
Les bouches, ça existe encore. Il y a une association à Paris qui s'appelle, je sais plus comment, mais qui n'a que des camionneuses, on va dire. Il y a toujours des filles, même aux soirées filles, qui ont ce code vestimentaire.
Ça n'empêche pas qu'elles existent encore. Elles s'habillent comme elles veulent, mais c'est pour montrer que toutes les lesbiennes ne sont pas des bouches et qu'on n'a aucune recherche de masculinité.
Mais ça, je pense que c'est plus nouveau. Il y a de plus en plus de nouvelles générations, de plus en plus de personnes qui sont classiques, quoi. Le normal, comme tu aimes bien le dire, Marie-Lou. on ne se doute pas que la personne est homo ou pas. Je pense que ça, c'est un côté qui a peut-être évolué quand même.
Ouais, c'est sûr, c'est comme chez les garçons, il y a de moins en moins de différences vestimentaires et on peut pas, en regardant une personne, qu'elle soit garçon ou fille, dire quelle préférence sexuelle elle a.
Il y a peut-être le besoin de se distinguer avant pour appartenir à quelque chose, alors qu'aujourd'hui on l'accepte plus facilement, on n'a pas ce besoin. Je sais pas.
Ouais, d'ailleurs, ça rend la drague plus difficile, hein. C'est chiant.
Par contre, c'est plus difficile.
Non, enfin, juste par rapport à la tenue vestimentaire, je sais pas, les homosexuels ont été les premiers à porter des slims et maintenant les hétéros nous les piquent, les slims. Donc,
C'est vrai. Ça, c'est vrai pour tout ce qui est mode. Et ça, je crois qu'il y a une permanence des temps là-dessus.
C'est le métrosexuel qui a lancé ça, je pense.
Je pense que même dans le passé, qui m'intéresse un peu au passé, les mecs, toutes ces tendances-là existaient. Tout le monde n'était pas village people dans les années 70. Hein, on s'habillait tous normalement. Hein,
Tout à fait.
Il y a des clichés.
Exactement. Voilà. Mais c'est aussi ce qu'on veut faire ressortir. Il n'y a pas tant de différence avec la population normale. Enfin, la population majoritaire, pardon.
Moi, si je discute avec des copines, oui, qui ont mon âge ou même un peu plus jeune, elles ont encore dans leur tête cette classification. Le mec, il est un peu folasse, la nana, c'est une camionneuse. Et ça reste quand même parce que ça a été. Et c'est pas que c'était mal, c'était comme ça, mais parce que ça a été, ça reste vachement encore dans les mentalités. Et moi, quand je lui dis, si je vais aux soirées filles, ou même quand je vais à Tonix, les nouvelles personnes qui viennent sont vraiment des gens tout à fait classiques. Il n'y a pas forcément de camionneuse ou de classe, quoi.
Et d'ailleurs,
elle en est surprise.
Et c'est d'ailleurs pour ça que, en ce qui concerne les clichés en général, et donc ceux-là en particulier, je pense que tout le côté chasse à l'homophobie le plus tôt possible à l'école me paraît vraiment une très très bonne solution. Là, on est vraiment dedans, là.
Alors Karine, ça illustre exactement ce que tu dis, en fait. C'est que toute cette génération où il y avait plus besoin de s'affirmer, tant au niveau des femmes que des hommes, dans le style vestimentaire, pourquoi pas, et c'est qu'ils ont eu à conquérir tous les droits que nous, on a eu acquis, en fait. Donc un garçon n'avait pas le droit d'être efféminé parce que c'était pas bien vu, une fille n'avait pas le droit d'être affirmée parce que c'était pas bien vu, elle devait être soumise, etc. Donc forcément, quand ils ont pu s'affirmer d'une certaine façon, ils l'ont fait. Et nous, on n'a plus besoin de tout ça puisqu'on a des droits acquis. D'où la différence.
Oui.
C'est un petit peu vrai ce que tu dis. Mais...
Pensons à les défendre quotidiennement.
Voilà, oui, c'est ça. Les droits sont jamais acquis, mais vraiment jamais. Hein. Excusez-moi.
Faut justement se demander toujours à qui.
Oui, mais on a des grandes gueules pour les défendre.
Les grandes gueules, c'est important, mais il faut qu'elles soient audibles et au bon moment.
Tu parlais pas de toi là, Julien, non?
En tout cas, on vous remercie d'être venu témoigner. J'espère que ça vous a plu, à vous déjà présents et puis aux auditeurs, bien sûr. Moi, personnellement, j'ai appris des choses parce que je pensais que ça avait beaucoup plus évolué et je trouve que, on vit la même chose. On vit la même chose, quoi. Et donc, ça veut dire surtout qu'il y a encore beaucoup à faire.
Pour Yvan qui voulait nous parler d'outing au travail, je crois.
Oui, exactement. Alors moi, je voulais aborder le thème, savoir premièrement faire un petit, un questionnaire ici. Qu'est-ce qui a fait son outing au boulot ici?
Son coming out, tu veux dire?
Coming out, ouais.
Moi, tout le monde le sait.
Ah, puis toujours.
Moi aussi.
Moi, je travaille pas. Moi non plus.
moi, je travaille dans un tout petit village, donc j'ai jamais dit, mais je suis à peu près sûr que tout le monde est au courant, mais par contre, j'ai jamais dit. Ouais.
Mais ça, on lève des boucles d'oreilles aussi.
Oui, il y en a qui m'ont entendu ici et qui n'ont pas fait le lien.
Et il insiste en plus.
Si, ils ont fait semblant de ne pas faire le lien, en fait, ils te cuisinaient pour que tu le dises.
Il est gonflé, lui.
Non, tu ne l'as pas dit.
Et toi, Corinne, tu l'as dit au boulot?
T'étais hétérosexuel?
T'étais hétéro?
Voilà.
Elle fait oui de la tête, je le dis pour les auditeurs parce que.
Ça s'est bien passé ?
Bah, hétéro, oui, je pense que ça se passe bien.
Non, c'est pas sûr, hein.
Et toi, Olivier, tu l'as dit ?
Pourtant, je travaille qu'avec des femmes, moi, Marc.
Ben oui. Non, moi, ils savent pas. Ils savent juste que j'ai une copine qui s'appelle Cécile. C'est déjà ça. Non, je vais pas le dire. Non, je pense pas que je leur dirai. Ils sont trop. Pas trop homophobes. Quoique ça leur ferait du bien s'ils le savaient, quoi. Mais vu que là, je vais partir avec mon boulot. Je pense que je vais leur dire
en les
clouant un peu sur le, en leur clouant le bec. Quoi. Je crois que je vais leur sortir.
Le concours a marché.
Oui.
Mais attends d'avoir signé ailleurs. Attends d'avoir signé ailleurs.
Non, mais ça leur ferait du bien. Ça leur ferait réfléchir, je pense.
Alors, il y a encore cette peur d'être agressé, de pas être promu parce qu'on se déclare, malgré une grande, grande espérance que la nouvelle génération de 20 à 30 ans, des 20-30 ans, sont beaucoup plus ouverts et qui sont prêts à se déclarer et qui acceptent ça dans leur vie. Et du coup, on peut assister maintenant à une grande... Enfin, dans les entreprises, il y a quelques entreprises comme Canal+, comme... oui, excuse-moi. Oui,
l'ensemble des médias, effectivement. Ah, ça, oui. C'est normal. Oui, dans les...
Grandes entreprises qui font des associations
oui.
gays.
Oui.
Et c'est les gays
comme
ont
chez les fleuristes ou chez les coiffeurs.
Ouais, bon, après ça dépend des entreprises, hein, mais on assiste à quand même un mouvement massif de la part des dirigeants.
Cas, voilà, des créations d'associations.
Voilà, des créations d'associations, mais faites par les personnes gays, parce que les syndicats, pas toujours, ont combattu la cause, et du coup, on a dû se prendre en main pour créer ces associations, vu qu'il n'y avait pas
se prendre en main, oui, ça me plaît bien. Se prendre en main, ça me plaît bien.
C'est aux États-Unis surtout, parce qu'il y a sur les Gay Pride, entre autres, aux États-Unis, il y a des défilés de Google, il y a des défilés des grosses sociétés
oui,
qui
et les sociétés appuient beaucoup la cause.
On a un petit peu importé ça, puisqu'il y a les grandes écoles qui avaient leur syndicat d'étudiants, enfin leur assaut d'étudiants, il y avait les policiers gays. On n'a pas encore les gendarmes gays et les bûcherons gays, mais ça va pas tarder.
Mais ça arrive en France.
En France, oui. À la dernière Pride de Paris, c'était comme ça.
En tout cas, moi, les deux premières entreprises où j'ai travaillé, je l'ai dit, j'ai eu aucun problème.
C'était quoi ? Fleuriste, coiffeur ?
Non, c'était à Paris, une grande multinationale.
Mais à Paris !
Et une autre, c'était en Hollande. Donc c'est vrai.
Oui, et même toi, quand tu ris.
Mais là, donc à Angers.
Voilà, par contre, à Angers, non. Non.
C'est même à l'endroit où tu fais tes études, je suis sûr que tu n'en as pas parlé.
Non.
Il faut y avoir des conflits avec la direction.
Des gros fonds conflits, mais par contre, c'est vraiment par peur de voir des notes baisser. Là, en cas de formation, au boulot, c'est.
Ouais, il y a quand même toujours une espèce d'ostracisme, il y a toujours une espèce d'intériorisation, il y a toujours une espèce.
Mais d'un autre côté, est-ce que c'est utile ? Enfin, est-ce qu'on irait dire qu'on est SM ? Est-ce qu'on irait dire qu'on est. Est-ce que.
Oui, c'est ça. Mais c'est aussi mentir quelque part par omission.
Non, tu n'en parles
bien
pas.
Sûr que si, parce que les gens ils disent et alors moi ta copine ton machin si t'es en couple et ben tu mens.
Mais non, tu dis que t'es en couple et puis c'est tout. T'as pas besoin de.
Oui,
préciser.
Mais forcément les gens ils vont te poser des questions et parfois ça devient des questions pièges et on rentre dans un mensonge. Ne serait-ce que parce qu'ils se font une image qui n'est pas la réalité.
Oui, alors c'est leur problème. Enfin, si t'es pas obligé, non.
Alors, il faut bien dire que aujourd'hui, les sociologues de l'école oui, mais je cherche d'où.
L'école normale supérieure, c'est l'école normale, quoi.
L'école normale.
C'est les profs.
Et donc,
excuse-moi. Mais Karine, tu disais,
non, ce que je veux dire, ouais, par contre, c'est que je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, quoi. Que c'est plutôt d'accord avec Micha, que c'est un mensonge dès l'instant qu'on te pose des questions, qu'on t'en parle, que le sujet est abordé, il n'y a pas de raison de pas en parler comme les autres en parlent.
Moi, je suis d'accord avec Karine.
Avec ta différence, ou qui est même pas une différence, qui est juste une façon de vivre, que les autres n'ont pas l'habitude d'entendre, mais.
Mais quand on pose la question, oui.
Oui, quand on peut. Allez, tu vas pas arriver en disant, bon, bah, au fait, je suis la petite nouvelle lesbienne.
Par rapport à ce que disait Michel, j'avais l'impression que c'était pas une gloire, mais enfin, je veux dire qu'il fallait le dire automatiquement quand on rentre.
Non, j'ai absolument pas dit que c'était une gloire.
J'ai compris comme ça.
C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est que
personne n'est parfait, ma pauvre.
C'est que très rapidement, les gens vont se poser des questions, ils vont dire, bah, t'as qu'à venir avec ta copine, etc.
Et ben, à ce moment-là, tu peux le dire.
Bah, c'est délicat.
Pourquoi ?
Parce que et moi, par exemple, j'ai un grand patron qui est nettement homophobe. Et je sais que si il...
qui nous écoute ce soir.
Non, c'est pas lui.
Comment s'appelle Dean?
C'est pas lui qui nous écoute. Et qui est nettement homophobe et je ne veux pas qu'il le sache.
Mais qu'est-ce que t'en sais si homophobe?
Je le sais parce que je l'ai vu sur des... Bah, je peux pas raconter certains exemples, mais je l'ai vu sur certaines réactions qu'il a avec un entourage professionnel.
La semaine dernière, en se rhabillant, il n'était pas du tout homophobe. Hein.
Non, mais est-ce qu'il t'apprécie?
Je pense que c'est des. Si il le savait, ça passe au-dessus du critère j'apprécie ou j'apprécie pas.
T'en sais rien.
Moi, je suis pas d'accord.
Bon, tu fais de la parano.
Oui, mais là, tu sais pas. Là. Non, mais par contre, c'est une voie de non-retour. Une fois que c'est dit, on peut pas revenir en arrière. Alors qu'avant, on a encore le choix. Alors c'est vrai que ça peut être. C'est normal qu'on se pose la question. Est-ce qu'il faut le dire?
En fait, ce qui est pas normal, c'est qu'on soit obligé de se poser la question.
Exactement.
C'est ça qui est pas normal.
C'est
clair. Mais enfin,
je pense qu'il faut pas. Faut être naturel, que ça soit pour n'importe quoi.
Mais si ça peut te porter préjudice, est-ce que tu serais aussi à l'aise de dire ça?
Je pense, parce que moi je suis naturelle, je dis tout, donc voilà.
Bah, personnellement, moi je pense que ça me porterait beaucoup de préjudice.
Ah oui, ah, ça je pense aussi,
beaucoup,
moi.
Beaucoup, beaucoup.
Ah, oui.
T'as pas idée à
quel point
je peux
pas
en parler, mais là c'est vraiment.
Eh ben alors, je croyais que la déclaration, tout ça c'était bien mieux, tu disais tout à l'heure.
Non,
c'est faux,
parce que je fais une mission d'un an, mais une entreprise où je pense rester, c'est quand même très long.
Par contre, je parlais des grosses sociétés.
Oui, et je reviens à ce que je disais par rapport à Éric Fassin, sociologue à l'École Normale Supérieure, qui nous dit qu'aujourd'hui, 70% des Français se prononcent pour une loi condamnant l'homophobie, alors qu'il y a 3 ans, ce mot était à peine connu. On n'est plus dans une logique de tolérance, genre chacun est libre de faire ce qu'il veut, ou de compassion, ces pauvres homosexuels atteints de sida, mais dans une logique d'égalité des droits.
Oui, mais ça, oui. Quand on
c'est
parle
déclaratif,
droits,
ça.
Oui,
hein.
Non, oui, quand on parle des droits, etc., je suis d'accord avec toi. Mais c'est comme si on prend le parallèle avec les parallèles avec les appartements, quand des gens en locataire, ils ne veulent pas d'arabe, par exemple, etc. Donc, effectivement, il y a des lois qui sont là, mais on ne pourra jamais empêcher quelqu'un de dire non pour cette personne-là, pour des raisons personnelles, etc. Donc, sur des choses spécifiques, on peut donner des lois. Maintenant, sur la pensée de la personne qui n'a plus envie de fréquenter une autre personne parce qu'elle est gay, ça va être difficile de faire passer
le... Et en fait, ça exprime très très bien qu'en fait, il y a toujours une espèce de... moi, j'appelle ça une xénophobie, parce qu'en fait, c'est le rejet de l'autre, une espèce d'allophobie générale. C'est-à-dire, en fait, ça existe. Oui, c'est une peur, mais dans la tendance, ça existe.
Oui, non, mais c'est une peur, mais je pense que justement, si Michel, il est apprécié, il peut peut-être t'expliquer. Enfin, je sais pas, après, je sais pas, je connais pas son patron, mais...
En termes de stratégie, oui, ça veut dire très très clairement que quand on a un capital sympathie, quand on est gay, lesbienne, bi, trans, ou qu'on est quelqu'un qui soutient les LGBT, c'est vrai qu'on a intérêt, si on a un capital sympathie, à mettre un maximum de cartes en avant, parce que ça sert tout le monde, ça c'est vrai.
Exactement, ça peut être au contraire ouvrir...
Mais enfin, en attendant, je pense que le travail est un des endroits où la sortie du placard est la plus dure quand même.
C'est vrai.
Mais bah, tiens, va l'expliquer au joueur de foot professionnel là, qui est en train de subir l'ostracisme de ses collègues.
Marie-Lou, là, tu vas bientôt rentrer dans le monde du travail, toi. Tu serais quoi, amène de jouer carte sur table et...
Est-ce que tu vas accepter que le monde du travail entre en toi? Non, c'était une blague, mais c'était pas drôle en fin de compte. Parce que...
Moi, je considère qu'il y a énormément de facteurs discriminatoires au travail. C'est comme être syndiqué, c'est comme être une femme et vouloir
exactement.
Des enfants. C'est un combat parmi tant d'autres et je pense que c'est au cas par cas et je verrai sur le moment venu.
Nous étions en 2009, j'ai l'impression que c'était hier et que les choses n'ont pas vraiment changé. Une des solutions pour lutter contre l'homophobie, eh bien, c'est d'en parler dès l'école. Nous sommes en 2010 et on évoquait déjà ce thème dans Tonix Live.
Là, on va aller à l'école, oui. Donc, ça évolue pas trop. À l'époque, on n'en parlait pas du tout. Et d'ailleurs, quand on étudie certains auteurs, moi je me souviens très bien d'avoir étudié Rimbaud, Verlaine et tout, sans jamais avoir su qu'ils étaient homo. Certains passages qui sont assez explicites de certains auteurs sont même supprimés pour étudier l'œuvre et ne surtout pas parler de ça. Donc, d'homosexualité, hein, je parle de pas d'homophobie, mais d'homosexualité. Donc.
Oui, non, mais d'ailleurs, on voit bien parce que quand dans Têtu, il y a Rivière, là, la Rivière qui fait son
lit.
Sa rubrique, on vous l'a caché à l'école. Ouais, qui fait son lit. Elle est bonne, t'es en forme, toi.
Oui.
Donc, quand il fait sa chronique historique, on vous l'a caché à l'école, on voit bien qu'en fait, il y a des grands visages, des grands noms de l'histoire qui sont complètement passés, dont l'homosexualité est complètement cachée.
Bah là, fallait surtout pas en parler. Ça,
là, c'est collège et lycée, tu nous parles aussi.
Là, collège, lycée, c'est à l'école.
L'école.
Donc, c'est collège et lycée, oui, en général, oui. Donc, en 2007, on pouvait déjà lire, enfin, on s'inquiétait un petit peu du sujet, hein, que faire pour mieux lutter contre le harcèlement homophobe à l'école. Et une commission parlementaire avait conclu, donc, dans un rapport, que le gouvernement devrait obliger les écoles à faire mention de l'homophobie, ainsi que de l'intolérance religieuse et de la stigmatisation des handicapés, dans leur programme anti-harcèlement, comme c'est déjà le cas, pour les actes racistes. Mais selon un porte-parole du ministère de l'Éducation, il n'était pas prévu que les écoles soient forcées d'adopter des mesures ciblant l'homophobie de manière spécifique. Autant dire que si t'es pas obligé, quand t'as pas envie, tu fais pas. Donc c'est d'ailleurs également la position qui était prônée par l'Église catholique, donc celle-ci qui gère également de nombreuses écoles.
Là on comprend, là ils suivent une ligne là.
Ils suivent une ligne et donc cette chère église qui estime toujours j'imagine qu'il n'y aurait jamais assez de place sur les murs pour afficher tous les règlements si une politique particulière était requise pour lutter contre chaque forme de harcèlement. Pas de place sur les murs. Bonjour l'argument. Donc en 2008, on pouvait lire dans Libération, le ministère de l'Éducation entend renforcer la lutte contre l'homophobie, souhaite que tous les élèves qui pourraient subir des vexations, voire des violences liées à son orientation sexuelle soient protégés. Du coup, je parle vite. Donc pour la première fois, en fait, la lutte contre l'homophobie sera explicitement mentionnée dans la circulaire de rentrée 2008.
Ah!
Voilà, afin que toutes les personnes se sentent concernées. Et le numéro de la ligne Azur, qui est là pour donc aider les jeunes homosexuels, sera systématiquement affiché dans tous les lycées. Et la brochure homophobie, pour savoir comment réagir, sera également mise à la disposition des élèves. Je sais pas si c'est depuis directive 2008, je sais pas si c'est affiché partout.
Ouais, donc déjà, je suis pas sûr que ce soit affiché partout. Puis résultat des courses, l'histoire du petit poisson, elle a quand même été...
Exactement. Bon, ça, c'était prévu pour la rentrée 2008. Donc, une campagne d'information serait menée également dans les universités, les grandes écoles, donc à la rentrée 2008. Par contre, rien de spécifique prévu dans les collèges, puisque selon le ministre, avec les collégiens, il faut être prudent, car il n'y a pas d'homogénéité. Ce sont des enfants et des adolescents. Oui. En février, a réitéré son opposition au seul fait d'évoquer devant des élèves de CM1, CM2 ce qu'est l'homosexualité. La secrétaire d'État à la famille a soutenu cette décision. Donc SOS homophobie ne comprend pas pourquoi une telle sanction est maintenue. Le problème n'est pas le film Le baiser de la lune, puisqu'il n'a encore jamais été réalisé, mais bien le principe même d'aborder une histoire d'amour entre deux personnes de même sexe.
Mais est-ce qu'on parle de sexualité hétérosexuelle au CM1, CM2?
Bah, t'as des cours sur... À mon époque, non.
Oui, voilà.
Après, si, ça, les cours d'éducation sexuelle, c'est rajouté dans les programmes.
C'est pas CM1, c'est pas CM1, CM2. Voilà. Donc, enfin, je sais pas, faut voir le problème dans son ensemble, après. Est-ce que si on parle que de l'homosexualité et on parle pas de l'hétérosexualité, est-ce que les enfants sont prêts à recevoir ce message? Est-ce qu'ils commencent déjà?
Pas forcément, CM1, voilà. CM2, je suis d'accord aussi.
Faut voir,
pas forcément justifié, effectivement. Après, dans les collèges et lycées, c'est indispensable.
Tout à fait. Ça, par contre, oui.
Ça, c'est indispensable. Parce que la demande des gays et des lesbiennes, elle est forte, quoi. Et les témoignages sont accablants. Pourquoi l'école censée assurer l'intégrité de tous les élèves laisse-t-elle se développer en son sein de véritables situations de harcèlement ou de maltraitance? Pourquoi ce lieu supposé formé au vivre ensemble est-il synonyme de souffrance, d'invisibilité pour les jeunes homosexuels? Et pourquoi l'insulte homophobe mêlée au sexisme est-elle souveraine sur les cours de récréation? Sans déclencher de véritables travail éducatif, surtout.
Mais, enfin, sauf que là, il y a aussi, un problème, c'est que quand il y a un enfant de CM1 ou CM2 qui traite quelqu'un de PD, c'est pas forcément lui dans son esprit l'homosexualité ou autre chose, c'est une insulte comme, fils de pute, c'est pas forcément que ta mère est une pute. Donc, il y a aussi dans le langage. Alors, effectivement, ça peut blesser la personne qui, elle, est concernée, qui se sent homosexuelle et qui croit que ça vient.
Mais c'est pas ciblé envers les gays.
Mais c'est pas forcément ciblé envers les gays. Et le fait de. Alors après, Ça peut être à double tranchant, effectivement, de relier ces insultes avec l'homosexualité. Après, c'est vrai que les enfants ne sont pas forcément liés à la sexualité en elle-même des propos qu'ils tiennent.
Je suis bien d'accord, exact, oui.
Oui, mais par contre, faut les habituer tout petits à pas considérer que pédale, c'est une insulte, quoi.
Alors, vous allez me dire...
On va te dire.
Bah oui, pourquoi avoir besoin de parler d'homosexualité et d'homophobie à l'école? Pourquoi? Bah oui, pourquoi, d'après vous?
Mais...
Bah, déjà parce que ça concerne entre 5 et 10% de la population, qui sont 5 ou 10% homosexuels,
ouais.
Que l'homosexualité est un sujet tabou à l'école, que les enfants grandissent en l'absence d'informations positives sur l'homosexualité, sont affectés très jeunes par l'homophobie, qu'il y a un jeune gay sur 4 qui fait une tentative de suicide, rien que pour ça déjà, que 2/3 des parents réagissent de manière négative à l'annonce de l'homosexualité de leur enfant. C'est pour ça que l'école doit pouvoir être un lieu d'accueil et de soutien et aborder les thèmes de l'homosexualité ou de l'homophobie au même titre que d'autres thèmes de société comme le racisme,
de toute façon, comme le racisme,
la famille, la discrimination, l'amour.
Oui, même oui, mais il faudrait que ce soit. En plus, je pense qu'il faut que ce soit abordé le plus tôt possible de façon à ce que les dégâts d'après puberté soient
pas
là.
Rien que de mettre des ressources concernant l'homosexualité dans les centres de documentation, des livres, des films, des brochures, des adresses, des numéros de téléphone.
Des petits films.
Des petits films.
Oui, des petits films d'animation. Des petits casinos, des petits trucs comme ça, c'est ça que tu veux.
Former le personnel enseignant également aux thématiques de l'homosexualité et de l'homophobie.
Ah, pourtant, il y a des profs homos, hein, ça.
Oui, il y a beaucoup de profs. Et on en connaît.
Il y en a des homophobes aussi.
Et
aussi.
Des homophobes aussi, ouais, mais des ateliers de sensibilisation, c'est pas forcément parce qu'il y a des homophobes en tant que prof, c'est aussi parce que même s'ils sont tout à fait gay friendly ou sympathisants ou que ça ne pose pas de problème, après il faut avoir le discours, il faut savoir comment aborder et comment parler de ça à des plus jeunes. Donc c'est important, je pense, que de former ce public de professeurs.
Après, savoir s'ils sont en demande aussi d'avoir ça. Je dis, enfin, moi personnellement, hein, je pense qu'il y a un certain âge où ils vont, parce que la sexualité commence à partir d'un certain âge. Donc il y a une éducation civique, ouais, par rapport à.
C'est pas que la sexualité, c'est aussi l'amour. Hein. C'est dire que c'est normal d'être. C'est aussi normal pour un garçon d'être amoureux de son copain ou pour une fille d'être amoureux de sa copine, si tu veux, c'est ça.
Oui, mais d'en parler
surtout
comme.
Que c'est souvent une passade, et puis c'est pas. Faut pas que ce soit sale ou synonyme de.
Ouais, mais à ce moment-là, on ne parle pas d'homophobie, on parle d'homosexualité. Parce que là, à chaque fois, là, on parle d'homophobie.
Oui, mais.
Donc tout de suite, de dire que c'est quelque chose, voilà, tout de suite, le mal, machin, etc.
Le sujet qui est l'homophobie à l'école, l'homophobie, elle existe pourquoi? Justement parce qu'on ne parle pas d'homosexualité à l'école.
D'accord, parce qu'en fait, ça fait partie de ces inconnus et de ces tabous.
Donc moi, je suis plus pour parler de l'homosexualité en général.
Oui.
Et pas forcément tout de suite aborder le sujet de l'homophobie.
Ah non.
De front, quoi.
On ne propose pas de parler de tombeau, mais de tabou.
Oh.
Oh non, vous êtes.
Guy sort de ce corps.
Non, on est bien d'accord. C'est si le sujet traite de l'homophobie à l'école, c'est bien parce qu'on ne parle pas d'homosexualité à l'école et que on sait bien, c'est l'ignorance sur ce sujet qui en général engendre des réactions violentes ou de l'homophobie. Yep. Mais il faut aussi informer, rassurer les parents d'élèves, et pourquoi pas, comme le fait l'association Contact, inclure des parents d'élèves gays et lesbiennes dans certains échanges d'informations.
Mm-hmm.
C'est rassurant, je pense, pour d'autres parents. Voilà. Donc,
toi,
ça évolue un petit peu, c'est ça que tu...
Oui, ça évolue un petit peu parce que je pense qu'il y a une volonté de vouloir former en tout cas les instituteurs ou les profs. Mmh. Et par contre, non, il y a un blocage de toute façon au niveau de l'institution qui refuse d'inclure ça dans le programme. Mais en fait, ça aurait deux actions positives. Une, c'est de permettre aux homosexuels de pas sans coup se demander ce qui leur arrive, de ne pas savoir à qui en parler, quoi faire, et de savoir que ça existe, que c'est comme ça, et puis c'est très bien pour eux, et puis que voilà, d'aborder ça, et puis éviter également les réactions d'homophobie, puisque connaissant un petit peu de quoi il s'agit, il y aurait peut-être moins de réactions violentes.
Là, on parle de collégiens, donc qui sont près d'adolescence, donc qui découvrent leur corps, qui découvrent leur sexualité. Je pense que quand on est devant des gens homophobes au collège, ça peut vraiment traumatiser quelqu'un à vie, quelqu'un homosexuel. Enfin, moi, je parle de mon cas, mais je sais qu'au collège, j'ai vraiment eu un traumatisme. Il y a vraiment des gens, enfin des élèves qui étaient avec moi là, qui me vraiment me traitaient de pédé à longueur de temps.
Ils étaient en jupe aussi. À un moment donné,
surtout là, en sport. Le sport pour moi c'était traumatisant. Toutes les semaines là, j'avais droit à plein d'insultes. Je me douchais pas exprès parce que ils me traitaient de pédé et tout, donc je voulais pas faire voir que je pouvais avoir une érection, parce que quand même il m'excitait un petit peu.
Ah. Mais non, ah, je veux dire, je pense que ça
t'étais déjà PJ à l'époque.
Je pense que ça, ça a pu me traumatiser beaucoup dans ma vie. Même maintenant, je pense que j'y pense régulièrement. C'est, ça peut donner. On peut manquer de confiance quand on est vraiment insulté comme ça à longueur de temps. Quoi.
C'est pour
je pense qu'il y a vraiment un travail éducatif à faire.
Il faut commencer le plus tôt possible, je pense.
Ouais,
c'est clair. Et puis, alors, c'est pas isolé du tout, parce qu'en préparant cette chronique-là, j'ai lu exactement le même témoignage que ce que tu viens de dire, d'un jeune homme qui était un peu plus efféminé, peut-être, blond et très fin, et il parlait pareil, c'est le sport, c'était l'horreur quoi, avec les autres, puisqu'il se faisait traiter de tous les noms, et les BD.
Enfin, moi, je persiste à croire quand même que ça reste pour certains adolescents une insulte comme une autre insulte, et qu'ils voient le point faible. Normal.
L'insulte, elle est.
Non, mais il voit le point faible de l'autre là et il attaque là-dessus. Mais c'est pas de l'homophobie en elle-même. C'est pas.
C'est si,
pas
si, que. Exactement. Si, c'est exactement si, ça. C'est exactement ça parce qu'en plus c'est diffusé à grande échelle et on n'insiste pas assez sur ce côté-là. Mais c'est blessé.
Oui, mais c'est oui c'est ça. C'est pour blesser.
C'est blessé. Mais, alors...
mais en fait, il s'en fout de sa sexualité ou autre chose. Il sait que ça, ça va faire mal.
S'il sait qu'il s'adresse à quelqu'un qui est féminé ou qui est pédé, s'il le traite de pédé, là, c'est vraiment pour le blesser sur ce truc-là.
Et l'homophobie s'adresse pas obligatoirement à quelqu'un qui est homo. Si on te traite de pédale alors que t'es un hétéro, de toute façon, il y a homophobie.
Ouais.
Mais il y a homophobie.
Pas sûr, moi.
C'est exactement ça, la définition.
Tu veux pour la définition, je suis d'accord, mais pour la
réaction. Tu passes le début de l'émission où tu te présentes en disant salut les tarlous,
oui,
et salut
oui,
les
tout à fait.
Les voudous.
Mais moi, on sait que je ris, moi.
Ouais. Alors, nous, on a le droit, par contre. Non, oui, c'est pas le droit, mais nous, on a le droit.
Pour les adultes, je suis d'accord, mais pour les enfants, je trouve que certaines fois, il est possible qu'ils utilisent ce levier.